On va continuer notre thème sur Matthieu 5, sur la suite des béatitudes. Et donc, vu qu'on a quelques visiteurs parmi nous ce matin, je vais me permettre de relire tout le passage pour bien qu'on se remette tous dans le contexte. Et avant ça, j'aimerais prier. Père Céleste, merci parce que ça nous a été rappelé ce matin et beaucoup de passages de la parole nous le rappellent, que en toi, Seigneur, nous pouvons être réconfortés, nous pouvons être guéris, nous pouvons ne pas avoir peur. Merci parce que tu prends soin de nous, merci parce que tu nous as tout acquis à la croix, tu nous as tout donné, tu nous as tout tracé aussi. Et Seigneur, maintenant tu nous as aussi donné une mission, et c'est vrai que nous sommes souvent, nous avons l'impression d'être tout petits, d'être insignifiants, mais Seigneur, avec toi dans notre cœur, nous sommes victorieux, et Seigneur, tu nous as confié dans ces béatitudes, Seigneur, des encouragements au témoignage, et Seigneur, nous te prions que tu puisses nous renouveler, nous encourager et nous fortifier dans notre témoignage. Amen. Je vous propose de lire Matthieu 5, les versets 1 à 16, et donc notre passage, nous, on s'attardera sur ce matin sur les versets 13 et 16. Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Voilà. On prend la lecture à partir du verset 1. Matthieu 5. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne, et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsque qu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Verset 13. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier. Et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Quel passage, hein? Quel challenge! Il y a le Max. J'appuie sur le rouge. Et la lumière fut. Voilà. C'est les lumières. Donc Pierre et Philippe nous ont conduits dans l'étude des huit béatitudes au cours de deux derniers dimanches. Et si on fait un petit peu un résumé de ce qu'on a vu, Jésus vient donc dénoncer les huit béatitudes. Heureux les pauvres en esprit, heureux les débonnaires. Et ces béatitudes sont, comme nous l'a rappelé Pierre il y a quelques semaines, font partie du sermon sur la montagne qui est le premier grand discours public de Jésus. Jésus invite ses auditeurs dans ce passage à lui ressembler. Et attention le modèle. Donc en étant pauvre en esprit, c'est-à-dire dépendant de Dieu, attristé par le péché, doux et humble de cœur, à la recherche de la justice de Dieu, bon envers les autres, à avoir un cœur pur, à être, comme on l'a chanté ce matin, des ouvriers de paix, et à être parfois persécutés pour notre foi en Jésus. Vivre les béatitudes au quotidien, c'est quelque part le programme de la vie du disciple selon Jésus. Alors humainement, ce programme, il est inatteignable. On est tous d'accord. Et cela nous renvoie, ça nous a été rappelé aussi lors des précédents messages, à notre impossibilité de vivre selon les standards de Dieu sans une transformation intérieure de notre cœur par Dieu lui-même. Et cela a été rendu possible par Jésus-Christ qui a réalisé pour chacun d'entre nous cette merveilleuse promesse qu'on peut lire dans Ézéchiel. « Je vous donnerai un cœur nouveau. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. » Vivre les béatitudes au quotidien est une manière de vivre à l'opposé total de notre monde actuel. Ainsi, en vivant les béatitudes, notre foi va se voir et va produire un témoignage fort de notre foi en Jésus. Et pour illustrer cela, Jésus va donc prendre dans notre passage, en guise, entre guillemets, de conclusion aux béatitudes, deux images très parlantes, le sel et la lumière. Et je vous propose qu'on essaye un petit peu de comprendre pourquoi Jésus va prendre ces images et qu'est-ce qu'on peut en tirer pour notre témoignage personnel. Le sel. J'aimerais aborder deux points sur cet aspect. Donc le sel comme agent de purification. Dans le contexte biblique, on remarque que le sel symbolise la purification. On voit un épisode de la vie d'Élisée en Deux Rois 2, versets 19 à 22. Dieu, par l'intermédiaire d'Élisée, va purifier l'eau de Jéricho. Vous vous rappelez de ce passage ? Verset avec du sel. Donc verset 19, « Les habitants de la ville dirent à Élisée, « La ville est bien située comme le voit mon Seigneur, mais l'eau est mauvaise et la terre ne produit rien. » Il dit, « Apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel. » Et ils lui apportèrent. Il alla vers la source d'eau, y jeta du sel et annonça, « Voici ce que dit l'Éternel. Je rends cette eau saine et il n'en proviendra plus ni mort ni stérilité. » Et l'eau est devenue saine jusqu'à aujourd'hui, conformément à la parole prononcée par Élisée. Dans le contexte également de la vie quotidienne, et à une époque sans réfrigérateur, ça remonte au-delà des années 60, hein, et dans les pays chauds, le sel était le seul moyen pour conserver la viande et éviter son altération. Alors ça, tout le monde le sait, mais j'ai appris la raison physico-chimique que certains d'entre vous, j'en suis sûr, connaissent. Donc j'ai appris en préparant le message que les aliments sont attaqués de toutes parts par des micro-organismes. Ouais, je dormais en cours de bio, donc voilà, ça m'a fait du bien de réviser. Certaines bactéries dégradent les protéines, d'autres les matières grasses, tandis que moisissures et levures détériorent la matière organique. Tout ce petit monde prolifère dès qu'il est placé dans des conditions favorables, présence de nutriments, température, pH, oxygène et teneur en eau adéquate. À partir d'une population initiale de 10 germes, on obtient 80 germes au bout de 60 minutes. Et au bout de 5 heures, 320 000 germes. C'est la fête, hein ? Heureusement, cette phase exponentielle est suivie d'une phase stationnaire car le milieu n'est plus favorable car il y a de plus en plus de déchets toxiques pour les micro-organismes. mais il est déjà beaucoup trop tard pour votre steak. » C'est là qu'intervient le sel. Ce dernier a la propriété d'attirer l'eau et de la retenir. Du coup, les bactéries sont privées d'eau, se déshydratent et ne peuvent plus se développer. Intéressant, n'est-ce pas? Ainsi, quand Jésus nous invite à être le sel de la terre, il nous invite à être des agents de préservation et de purification afin de limiter l'action de la bactérie spirituelle qu'est le péché. Alors, le péché que nous pouvons trouver encore dans nos vies et que nous devons purifier, mais le péché aussi qui est dans la vie des autres, en leur permettant à leur tour de porter du sel et ainsi de devenir à leur tour des agents de purification. Alors, un petit exemple aussi de la vie quotidienne, je ne l'ai jamais testé, mais il paraît qu'en mettant du sel sur du pamplemousse, on en adoucit le goût. Ainsi, le sel neutralise l'amertume et l'acidité. Nous sommes donc également, comme on l'a encore chanté ce matin, des ouvriers de paix là où règne l'amertume. Deuxième point, le sel comme exhausteur. On peut lire en Colossiens 4, au verset 5, « Conduisez-vous avec sagesse envers les gens de l'extérieur et rachetez le temps. Que votre parole soit toujours pleine de grâce et assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. » Nous sommes donc invités à avoir une parole assaisonnée de sel. En cuisine, là aussi je ne suis pas un expert, j'ai appris plein de choses pour ce message, c'est super. En cuisine, l'assaisonnement au sel sert à révéler les goûts et les arômes. C'est un exhausteur de goût. Un exhausteur de goût est une substance qui, sans avoir une saveur propre prononcée, ne modifie pas le goût, mais augmente l'intensité de la perception olfacto-gustative, le goût et l'odeur, d'une denrée alimentaire. Il ne modifie pas le goût, mais augmente l'intensité de la perception. Application pour notre témoignage. Être sel pour les autres, c'est être un exhausteur des autres. Être un révélateur des autres, c'est être tourné vers les autres, pas pour les juger, mais pour les valoriser en leur montrant par nos actes et nos paroles qu'ils ont de la valeur à nos yeux et surtout de la valeur aux yeux de Dieu. Cela me renvoie personnellement à ma manière de témoigner. En effet, je me rends compte que je témoigne parfois d'une mauvaise manière en soulignant les mauvaises actions de mes collègues. De ce que je ne ferai pas en tant que chrétien. Faire travailler au noir, télécharger illégalement, blablabla, blablabla, blablabla. Parce que je veux leur montrer, ça part d'une bonne intention, qu'ils sont pécheurs et qu'ils ont besoin de Dieu. En fait, j'oublie une étape primordiale. Celle de leur donner envie de connaître Dieu en les considérant et en les valorisant comme des créatures voulues et aimé par Dieu. Et apporter de cette manière un témoignage positif qui donne du goût et par là même donne envie. Comme Jésus parle de saveur du sel, cela me renvoie à la saveur que je laisse derrière moi. Quel est l'arrière-goût que je laisse aux autres derrière moi? Celui d'un jugement culpabilisant? Ou bien ce goût agréable de la grâce de Dieu qui donne envie d'y revenir. Dernier point concernant cette première image du sel, vous avez remarqué que Jésus parle de perdre sa saveur. Et est-ce qu'on pourrait en déduire que Jésus parle de perte du salut. En poussant ce texte, on pourrait se demander si Jésus parle de perte du salut quand il parle de perte de saveur. Alors si on regarde, deux réflexions. Premièrement, d'après les commentateurs, le sel de Palestine du 1er siècle est issu de la mer morte. Effectivement, ils en ont des gisements à plus savoir qu'en faire. Et ce sel de la mer morte est un mélange de cristaux de chlorure de sodium, donc de sel, mais également d'autres cristaux et d'impuretés sans saveur. Mis en présence d'humidité, les cristaux de chlorure de sodium fondent et seuls les résidus sans saveur subsistent. Le sel, d'ailleurs, intéressant, ayant perdu sa saveur, était répandu sur le dallage du temple de Jérusalem pour empêcher les gens de glisser en hiver. Il paraît que ça se fait encore un peu au Chambon. Quoi qu'ils ont abandonné le sel. Ainsi, le sel qui avait perdu sa saveur était foulé aux pieds par les hommes. Un disciple qui ne se remet plus en question et qui ne vit pas ou plus selon les principes des béatitudes s'expose à être rejeté, non par Dieu, mais par les hommes qui fouleront aux pieds son témoignage devenu fade et sans saveur. L'image du sel, de la saveur du sel, nous renvoie quand même avec force sur la mission que Jésus nous confie. Une deuxième réflexion est que le sel ne peut pas perdre sa saveur, sinon ce n'était pas réellement du sel à la base. Ainsi, Jésus exhorte là encore ses disciples à dépasser les pharisiens dans leur pratique hypocrite de la religion. Et on avait déjà pris ce verset avec Pierre, Matthieu 5, verset 20. « En effet, je vous le dis, si votre justice ne dépasse pas celle des spécialistes de la loi et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Les pharisiens avaient l'apparence de serviteurs de Dieu, mais n'étaient que des serviteurs hypocrites et sans saveur. Ainsi, Jésus rappelle à son auditoire qu'une réelle conversion est nécessaire et que cette réelle conversion ne laissera pas ses disciples inactifs. Ainsi, plutôt qu'une justification de la perte du salut, on peut plutôt y voir un encouragement à se tourner pleinement vers Dieu et à se nourrir toujours plus de la grâce pour pouvoir mieux la répandre autour de nous. Ainsi, notre rôle est d'assaisonner le monde à l'endroit où nous sommes en répandant ce que Dieu a déposé en nous. La lumière. Alors moi, et mon frère, on est 50% belges, donc on a le droit de raconter des blagues belges. Mais vous, non. Bon. Une blague belge sur les Français. Pourquoi les autoroutes françaises ne sont pas éclairées? Guillaume y connaît la réponse. Parce que les Français se prennent pour des lumières. Alors quelle est cette lumière dont Jésus parle? Cette lumière, c'est Jésus dans nos vies. Jean 8, verset 12, Jésus leur parla de nouveau. Il dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura, au contraire, la lumière de la vie. » Notre rôle n'est pas de produire de la lumière par nous-mêmes, comme les Français le font, ou par nos œuvres. Mais notre rôle est de rayonner la lumière de Jésus autour de nous. Alors concernant la lumière, les pixels là c'est horrible, bref, c'est une ville sur une colline, voilà, en flanc de falaise. Ce texte nous parle d'une ville placée sur une montagne. Une ville placée sur une montagne est un repère. Une ville placée sur une montagne est à l'abri des envahisseurs de la vallée. Une ville placée sur une montagne, c'est un refuge, un réconfort pour ceux qui fuient. Dieu nous a placés, chacun d'entre nous, à l'abri de son salut, au bénéfice de son pardon, de sa paix et de sa grâce. Et c'est pour cela que nous pouvons briller à notre tour dans ce monde. Une lampe ne se met pas sous le boisseau. C'est d'une logique implacable. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous un seau, sous un boisseau. La lumière se partage dans une maison. Et d'ailleurs, ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'elle ne coûte pas plus cher quand plusieurs en profitent. Albert Schweitzer a dit « Le bonheur est la seule chose qui se double si on le partage. » Le bonheur est la seule chose qui se double si on le partage. Et cela est d'autant plus vrai, n'est-ce pas, pour la joie du salut et l'Évangile. Je suis parfois triste quand je ne saisis pas une occasion de témoignage. Mais ce texte m'invite et nous invite à soulever le boisseau de plus en plus afin que la lumière de Jésus puisse briller autour de moi et attirer des personnes en recherche de vérité. Alors mettre la lumière sur un support ou un pied de lampe, selon d'autres versions, c'est mettre en avant l'Évangile, vous êtes d'accord? C'est ne pas le cacher. Alors dans mon métier, et de plus en plus dans l'industrie et même dans le commerce, il y a Internet. Et il y a une énorme bataille sur Internet de ce qu'on appelle la bataille du référencement. Le référencement, c'est la manière de mettre en avant ses produits sur Internet. C'est-à-dire d'avoir des mots-clés pertinents sur notre site Internet pour que lorsque les gens vont rechercher, une table de ping-pong et que je suis fabricant de tables de ping-pong, ils tombent sur moi et ils m'achètent mes produits. Nous sommes invités à diffuser des paroles lumineuses de vérité et d'amour, c'est-à-dire inspirées par Jésus-Christ, pour que lorsque des gens seront en recherche spirituelle pour sortir des ténèbres, les gens puissent trouver l'Évangile. La dernière chose dans ce texte, c'est que Jésus nous invite à faire des bonnes œuvres. Mais pas n'importe lesquelles. Jésus nous invite à agir et à faire des bonnes œuvres, mais pas les nôtres. Celles qu'il a préparées d'avance pour nous. Et d'ailleurs, ces bonnes œuvres doivent être signées. Nos œuvres doivent être vues par les hommes, mais pas pour nous mettre en avant, mais pour mettre Dieu en avant. Et ainsi apposer la signature de Dieu sur nos œuvres. Quelqu'un a dit, il est juste de faire ce que les hommes peuvent et doivent voir, mais non pas pour être vu par eux. Je reprends. Il est juste de faire ce que les hommes peuvent et doivent voir, mais non pas pour être vu par eux. Deux exemples. Certains footballeurs chrétiens célèbrent leur but en rendant hommage à Dieu. Même si la manière est parfois discutable, l'idée est que ce que je fais et ce que je suis me viennent de Dieu et que je suis seulement un panneau indicateur vers mon Père céleste. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais il s'appelle, enfin son surnom, c'est avec un K, deux K, s'il vous plaît, Kaka. C'est un footballeur brésilien, transféré au Real de Madrid en 2009 pour la modique somme de 68 millions d'euros. Qui est connu pour sa foi chrétienne évangélique, qu'il tient de sa famille. Il explique notamment que cette foi s'est renforcée lors de sa guérison d'une fracture de la sixième vertèbre à la suite d'un accident en vacances dans la piscine de ses grands-parents à l'âge de 18 ans qui aurait pu le laisser paralysé. En glissant sur le toboggan, il se cogna la tête contre le fond de la piscine. Il considère sa guérison comme un miracle et cet événement a fait croître sa foi en Dieu. Cet épisode m'a certainement renforcé sur le plan spirituel. Dieu m'a aidé à guérir alors que je risquais d'être paralysé pour toujours sur une chaise roulante. Mais ma foi remonte à mon enfance. J'ai grandi dans une famille évangélique et je me suis fait baptiser à l'âge de 12 ans, déclare le joueur à propos de sa foi. C'est pourquoi sur le terrain, il célèbre souvent ses buts en levant les bras au ciel et en priant. Kaka. Deuxième exemple. Vous avez des exemples comme ça dans la parole ? Daniel. Lorsque Nebuchadnezzar demande à Daniel de révéler son rêve, le rêve qu'il a fait de la statue, et qui lui demande son interprétation, que va répondre Daniel ? Daniel 2, verset 27. Daniel fit cette réponse devant le roi. Ce que le roi demande est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens et les devins ne sont pas capables de lui révéler. Pour information, je le rappelle, vous le savez, mais le roi a fait un rêve et il a demandé aux sages de lui dire quel était ce rêve, sans leur dire. Et ensuite de lui expliquer le rêve qu'il ne leur avait pas dit. Et s'ils n'y arrivaient pas, on est un petit peu dans ce contexte, Daniel fit cette réponse au roi, ce que le roi demande est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens et les devins ne sont pas capables de lui révéler. Cependant, il y a dans le ciel un Dieu qui dévoile les secrets et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans l'avenir. Voici ton rêve et les visions que tu as eues sur ton lit. Daniel met tout de suite Dieu en avant. Il a un témoignage clair et sans ambiguïté. Et il est très intéressant d'aller à la fin de ce passage, de lire ce passage bien sûr, comme tous les passages de la parole, mais d'aller à la fin de ce passage pour remarquer que, et constater que ce témoignage a eu un impact fort sur Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar est interpellé non seulement par la révélation du songe et son interprétation, mais également par le Dieu de Daniel. Daniel 2, verset 47. Le roi adressa la parole à Daniel et dit, « C'est certain, c'est votre Dieu qui est le Dieu des dieux et le Seigneur des rois. Et il dévoile les secrets puisque tu as pu dévoiler celui-ci. » Nos bonnes œuvres doivent être signées. Pour conclure, ce texte fort nous invite donc à être sel et lumière, c'est-à-dire à être des agents de préservation contre le péché de ce monde et contre le péché de ma vie, à révéler la valeur que les autres ont aux yeux de Dieu et à rayonner de la lumière qui est Jésus. Ainsi, nous serons des panneaux indicateurs bien visibles dans ce monde en perdition. Je vous laisse un verset, 1 Pierre 2, verset 12. « Ayez une bonne conduite au milieu des non-croyants, là même où ils vous calomnient comme si vous faisiez le mal. Ils remarquent votre belle manière d'agir et rendent gloire à Dieu le jour où il interviendra. » Que Dieu nous aide, chacun, là où il nous place, à vivre plus qu'hier et moins que demain, d'être sel et lumière pour le monde qui nous entoure. Amen.